Debiaio de Biasso. Debiaio de Biasso, votre émission qui traite de musique, de lettres et de culture occitane, avec Guillaume Boucher.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content de vous tourner à trouver la nostra émission Debiaio de Biasso. Dieu, de qui on en parle? On en parle de los ombuejos, des jauboy, des grailes et tout ce que le rasso d'instruments de la putorailoi duploi. Mais que je co diable en français que les ombuejos? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vous proposons de découvrir les hautbois populaires du monde. Quelles sont les sources et musicales dont nous disposons pour apprécier ces musiques? Si le domaine français est le plus riche au monde par la variété de ses cornemuses, il ne l'est pas moins par la variété de ses hautbois populaires. Mais savez-vous d'où nous viennent les hautbois? L'antiquité gréco-latine connaissait l'usage des anches doubles avec l'avlos. On peut associer l'expansion des hautbois au voyage de la religion musulmane tant à l'est, en Chine, on connaît même les hautbois jusqu'au Japon, qu'on nomme Michiriki, comme à l'ouest, à la pointe de la Bretagne française. Mais les hautbois ne se limitent pas à cette occupation du vieux continent. Et ils ont traversé la mer, tantôt avec les colons chrétiens espagnols en Amérique centrale, où l'on joue la chirimilla, avec un tuyau mélodique en terre cuite, tantôt à Cuba, où les travailleurs immigrés chinois, œuvrant notamment pour la construction du chemin de fer au XIXe siècle, apportèrent la suona, que les Cubains appellent depuis trompeta china, la trompette chinoise. Parmi les nombreux noms des hautbois du monde, on peut faire quelques classifications. Certains ont des noms isolés particuliers, tels le doudouk arménien. D'autres hautbois maghrébins et espagnols sont associés au nom de la cornemuse, qui tire le sien propre de la chèvre, et dont on retrouve la racine un peu partout au nord de l'Afrique et en Europe. Raita, gaita, gaida, rappelant l'alsacien gais ou l'anglais goat, et qui rappelle leur crabor, cobretor, et sobretos occitanes. D'autres sont associés au roseau qui constitue l'anche, la pièce buccale par laquelle est émis le son, calamos en grec. La chalumie française, le coromel occitane, la chirimilla latino-américaine, le chalmai allemand, la charamella italienne, la caramusa grecque. Mais le mot le plus répandu est le persan zurna et ses nombreuses variantes depuis la Chine jusqu'aux Balkans, en passant par l'Inde et l'Asie centrale, du persan Zour, la fête, et Naï, le roseau, joué avec les indissociables tambours de très nombreuses factures. Nous vous proposons, pour une première écoute, d'écouter deux airs grecs, dont une danse à cinq temps, et un air intitulé Samiotissa, interprété par le trio de hautbois languedocien de Ténora et de Tiple catalan, les grains charmants.
Thank you.
Cet enregistrement est particulier, vous aurez pu entendre un hautbois basse assez peu répandu, qu'on appelle le sarrusophone, et qui est le fait d'un inventeur sud-aveyronnais, M. Sarrus, et dont l'instrument a été exhumé et la pratique promue par un musicien Philippe Neveu, oboïste de renom, dont nous aurons à reparler dans cette émission. À l'écoute, on pourrait croire qu'il y a une différence radicale entre ce hautbois populaire et le hautbois classique qu'on connaît dans nos orchestres. C'est simplement une différence de facture et d'évolution. Au XVIIe siècle, les familles de musiciens-compositeurs français Hautetert et Philidor, puis leurs successeurs, feront petit à petit évoluer les hautbois populaires vers l'instrument connu aujourd'hui et mondialement diffusé. Mais cette histoire n'est qu'une partie d'une plus grande histoire, et la chalumeau du Moyen-Âge va connaître à la Renaissance d'autres adaptations et expérimentations qui déboucheront sur la variété des hautbois populaires du domaine français. Toutes les régions sont concernées par cette pratique, et l'on connaît des pièces de collection en Normandie ou bien dans le Poitou, entre autres. Mais c'est à la Bretagne, à la Catalogne et à l'Occitanie que nous devons d'avoir maintenu ininterrompues ces traditions instrumentales. La bombarde en Bretagne, le tible et l'invention de la tenora catalane, et la myriade des hautbois occitans, dont chaque nom relève d'une facture et d'un son propre. L'auboy languedocien, l'ambouège quercinoise, rouergate et albigeoise, le clary pyrénéen, le graille tarné, la tchalemine landaise, la bouesse ariégeoise. On doit aux joutes sétoises et de l'étang de Thau dans l'Hérault d'avoir maintenu ininterrompu la pratique du couple hautboy tambournette jusqu'à nos jours et dont nous proposons l'écoute d'un joueur emblématique du milieu du XXe siècle, Léon Larose, enregistré en 1966, accompagné du tambourineur Paul Vidal, interprétant le pavois d'or lors du défilé des joutes.
À Figeac 97.7.
Mais qu'en est-il du Quercy? Les auteurs quercinois, à cheval entre le 19e et le 20e siècle, mentionnent la pratique de l'amboise et du tambour à répétition. Le montalbanais Émile Pouvillon, lors des fêtes de la Pentecôte à Moissac, écrit les lignes suivantes dans Terre d'Oc. Dans l'intervalle des hymnes, le tambourin et l'amboise, postés à l'avant du bateau, sonnaient une sorte de marche ou de danse guerrière qui est de tradition ce jour-là, et dont l'invention remonte sans doute aux origines de la race. L'amboise nasillait, le tambourin ronflait, et l'étrange musique sautillante et barbare, associée à la pompe catholique, je ne sais quelle ardeur païenne, écho des rites d'autrefois. Ou encore dans sa nouvelle « Le tunnel », à propos d'une excursion à Soliac, Soliac-sur-Célé, j'entends, qui relate la construction du tunnel de la Pescalerie et le portrait d'un personnage haut en couleur, Cantarelle. Le percement de ce tunnel avait été un gros événement dans l'histoire de Soliac. Témoin et même acteur de cette mémorable entreprise, l'aubergiste nous en racontait les péripéties. La chose, paraît-il, n'avait pas été toute seule. Les gens de l'endroit, ignorants et têtus, le vieux surtout, avait fait opposition au projet. Le plus enragé de tous, nous disait l'aubergiste, le meneur de la bande, habitait là, en plein rocher, sur le terrain même où devait se livrer la bataille. Vous voyez ce trou noir, un peu au-dessus de l'entrée du tunnel? C'est l'entrée de la grotte où je logeais Cantarelle. Il s'y était établi, tout jeune, du temps des grandes guerres, sous l'empereur premier, quand les gendarmes traquaient les conscrits. Il y avait pris ses habitudes. Cette croze avait une issue vers le Causse, un boyau par où Cantarelle se glissait comme une couleuvre. L'endroit lui était commode. Pêche ou chasse, tout s'y trouvait à portée. Cantarelle n'était pas en peine de sa nourriture. Les bonnes âmes n'auraient pas manqué d'ailleurs de le secourir à l'occasion. Les réfractaires n'étaient pas mal vus dans le pays. Au carnaval, quand les maisons envoient au passant la bonne odeur des boudins grillés ou des crêpes à la belle saison, lorsque l'amboise et le tambour promènent à travers les campagnes l'annonce de quelques bottes, comprenez la fête votive, Cantarelle s'invitait, s'asseyait à table de famille, ou bien il dansait le branle sur le pré communal, il nouait ses mains aux mains des jolies filles dans le tourbillon de la ronde tremblante. L'empire tombé, le réfractaire disparut, le braconnier resta. Il vécut, en effet, et même il vécut bien pendant assez longtemps. Il fut le fournisseur attitré des auberges du canton, le pourvoyeur des presbytères et des châteaux. Mais après les années grasses vinrent les années maigres, le métier se gâta. Trop de braconniers, trop de gendarmes. De ce couple hautbois-tambour, l'écrivain tarn-et-garonnais Léon Cladel, originaire du moulin de Lalande, dans la région de Lozerte, en a fait les héros de son roman, La fête votive de Saint-Bartholomé-Porte-Glève. Et c'est tout le roman qu'il faudrait citer et dont nous vous recommandons vivement la lecture. Cette association du hautbois à la fête, religieuse ou profane, a déjà été évoquée dans l'étymologie persane de la zourna, le roseau de la fête. Elle est encore magnifiée dans le roman « Au pays des bombances » d'Ernest Lafon, écrivain d'Albas dans la vallée du Lot, ou encore dans le poème du même auteur « Le carnaval, le postiche, la farandole et le dancio redondo » que voici. Le carnaval, le postiche, la farandole et le dancio redondo. Però lo beige, d'un cadustal, se fogio coi d'un crustado. Un posticum un cobechal, cu cui levat un otoulado. Cadu manciato a plen popà. Ton che pudiò, con ce fegavo, bevio un beire de muscato. Dui se cogliò, pei li tornavo, per dicestio che il plotù. Portiò a pei in farandolo, a itallur mentre prestisio, tutto in facchello covirolo. A pre vesproi, per moi, dopo l'empello placio, ed i farandolur son diu, seguendo traso. L'ombruejo, lo secado, pi fraide de schiul blon, de triaulet, birulet, de gruno sul lambuejo, con sul lungo di un otuejo. Turlututu pampang, rapataplan. Rapataplan, peiruno, peiruno, laio de lol ne pastobu, no cumolubi del borricot, con se bendesci in sol lupot. Conelo, escrotos pe, meno lo farandolo, ne porto l'udolopeu, ed o regel, bronciolo, de sciune dei biel, lu fun de sporpoglior. Lo scienzoi dei guiat, mucodù dei guiatoi, ambellur gautos incornatoi, lur fau palaire de moniot. Rapataplan peiruno, laigo de lol ne pastobu, no cumulubi del borricot, conce bendesci in sol lupot. Un bulat de cisclu de lunden cocodeno, e primo l'allegrur. Tuce li bou champeno, per batre d'entre cau, e lur par, cocco irat, sautu lur rebinguet, e pumpiguen lo solo, del clopodì de farandolo, din un ritme de stim burlat. Rapataplan peiruno, laigo de lol ne pastobu, no cumolubi del borricot, con se bendesci in sol lupot. Après la farandolo, abbian la dancio rundo, che intunavo conelo, and in uvuesta priundo. Del repertori culurat de sus couplet, cobretaires, tenors e bassos enraucados, querus segur, un pau cromados, fogiu petar lu copelet. Non n'y a pas de plus l'urrada, que la ifenoi de pespet, que lo isembo per la ibiliado, y quitu l'ur marijolet. Trubaires immortal de moi rundos oimador, cobeston de grunat de rimos enflurador, ton que muncur botro, iu burresti fidel. Presi vostro consuo il lengo musicairo, ne sabi pas plus incontairo che lui berset de lur rundel. Si ces pratiques se sont effondrées avec tout un monde lors de la Première Guerre mondiale, le témoignage des plus anciens est venu enrichir la littérature d'agrément et l'autre administrative. On parle en effet des hautbois et tambours dans les monographies des contrôleurs des contributions du Lot au XIXe siècle. Et encourager des enquêtes fructueuses qui ont permis de retrouver des instruments anciens à Val-Liourle, à Savignac dans l'Aveyron, à Rabastens dans le Tarn, à Cahors et au Monta dans le Lot. La reproduction de ces instruments a commencé et son amélioration se poursuit notamment grâce aux initiatives des musiciens de l'Ogroncio dans le Lot et de l'Otolvero dans le Tarn. Elle présente de l'intérêt pour les jeunes musiciens, dont nous vous proposons l'écoute d'une version d'une ronde du Quercy, Gouillac et Cheja Morida, par le groupe Tripou. Avant de clore cette émission, nous voulons à tout prix saluer le musicien de renom mondial Philippe Neveu, né à Moissac, et qui nous inspire et nous conseille après avoir confronté le hautbois languedocien à la musique classique, aux musiques anciennes, aux musiques improvisées, ainsi qu'au jazz musette, dont nous vous proposons pour nous quitter l'écoute d'une version de la célèbre valse Nani de Joseph Colombo, réécrite pour trois hautbois languedociens et catalans, et interprété ici, une fois encore, par les Grinces Charmants. Dans les mouchures, le plus bel jamais lui moïnade, soube j'ai biel, espérant que vous serez corra d'écouter quelle émission, et vous dire un odissia j'ai le coq que bé, pour la nostre émission de biai ou de biacha. Odissia.
C'était votre émission de biai ou de biasso. une émission qui traitait de musique, de lettres et de culture occitane, en compagnie de Guillaume Boucher.